France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Franck Burbage et Emmanuel Huysmans-Perrin. À l'heure du procès de Joël Le Squarnec, de l'affaire Bétaram, après le procès des viols de Mazan, l'Union rationaliste a voulu voir plus clair dans la question des violences sexuelles, question que nous avons peu abordée à l'Union rationaliste, et nous avons invité pour ce faire Sandrine Bonneton. Sandrine Bonneton, bonjour.
Bonjour Madame Lina.
Vous êtes pédopsychiatre, vous exercez notamment au sein du Centre de consultation et de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Et vous êtes par ailleurs membre de la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, autrement dit aux jeunes mineurs. Vous avez publié à l'automne dernier une tribune dans le journal Le Monde, le 10 octobre 2024, à propos de l'organisation, ou plutôt de la désorganisation des familles, terme sur lequel nous allons sans doute revenir dans cet entretien. Alors, ma première question, Sandrine Bonneton, porte sur la CIVISE, cette commission qui a été constituée en 2020 dans un contexte de relative libération de la parole des jeunes victimes de violences sexuelles, mais souvent avec derrière eux des années de silence, avec des blessures, des douleurs, des traumatismes. Elle a fait, cette commission, dans un premier temps, un travail de très grande ampleur par le recueil des paroles de victimes, puis par la parution à l'automne 2023 d'un rapport comportant une série de préconisations. Elle a été reconduite et travaille désormais à compléter et à poursuivre ce travail engagé. Alors, Sandrine Bonneton, en quoi consiste actuellement le travail de la CIVISE? Quels sont ses principaux objets et les modalités de ce travail?
Alors, donc la CIVISE, donc Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, est un groupe indépendant composé de spécialistes dans le champ des violences sexuelles au sens large. On est une quarantaine à l'heure actuelle entre les membres de la CIVISE, le collège directeur, les membres du secrétariat général. D'un point de vue historique, c'est important de rappeler qu'elle a été créée en 2020 sous l'impulsion d'Adrien Taquet, qui était alors secrétaire d'État auprès de la ministre des Santé et des Solidarités, et qui avait en charge de faire avancer la défense des droits fondamentaux de l'enfant, de soutenir la parentalité et de lutter contre la maltraitance. Alors, la CIVISE et les premiers travaux d'ampleur, comme vous précisez bien, a eu comme objectif principal d'impulser un mouvement de reconnaissance des victimes de violences sexuelles dans l'espace social, de sortir des espaces confinés, des lieux de soins, des lieux de psychothérapie, et d'écouter, que tout le monde puisse entendre des victimes, des adultes victimes, enfants, mais bien au-delà, évidemment, de faire avancer notre société dans la reconnaissance de leurs droits de protection, d'accès aux soins, mais aussi droits de justice. Donc en 2023, il y a eu un premier rapport avec 82 recommandations, et aujourd'hui, nous sommes engagés dans le suivi de ces recommandations élaborées et l'élaboration de nouvelles recommandations. Donc là, actuellement, le collège directeur, le secrétariat général rencontrent régulièrement les cabinets ministériels dans le cadre de réunions interministérielles pour faire avancer l'application et les transformations institutionnelles de ces recommandations. Donc ça, c'est très important. Par rapport au mouvement d'ampleur dont vous parliez, c'est vrai que de 2021 à 2023, on parle de 30 000 témoignages, donc c'est important. Des témoignages par mail, des témoignages par téléphone, sur une ligne téléphonique dédiée, apportée par un collectif féministe, et 26 réunions publiques et 254 même précisément, auditionnées individuellement. Par la suite, les objectifs, j'allais dire, de la CIVISE sont modifiés. Ce temps de reconnaissance était important. Et là, maintenant, l'idée, c'est d'impulser une transformation des institutions, une bascule dans le droit commun, par la mise en œuvre des reconnaissances. Comment intégrer ces recommandations et comment proposer une stratégie de bascule, une stratégie de transformation. Donc les témoignages se poursuivent, donc la ligne d'écoute est toujours en action. Par exemple, il y a eu 470 appels depuis janvier 2025. Le nombre d'appels est plutôt stable et a augmenté avec après l'affaire Betaram, où on serait aujourd'hui à 20 témoignages par semaine actuellement. Et ces témoignages, c'est important et on porte évidemment ce souci de témoignage, mais aussi d'archivage de ces témoignages. Et donc là, actuellement, nous avons mené un partenariat avec un laboratoire spécialisé dans les en études archivistiques, le laboratoire TEMOS de l'Université d'Angers. Donc, nous restons engagés, même si les moyens financiers ont considérablement diminué, puisqu'il y avait au départ 10 équivalents temps plein, fac stagiaire, et qu'aujourd'hui, à part le secrétariat général, nous travaillons tous bénévolement. Ce qui est important, c'est de faire fonctionner déjà notre collectif pour faire bouger les choses à grande échelle, sachant qu'on est un collectif, je vous disais, une quarantaine de personnes, dont certaines vont porter évidemment des positions militantes, puisqu'elles sont elles-mêmes victimes, elles représentent des victimes, et d'autres comme moi, qui représentent la Fédération française des CRIAS, où on va essayer de faire bouger les lignes d'un point de vue institutionnel pour mieux repérer, mieux répondre aux enfants victimes de violences sexuelles et aux adultes qui ont été victimes de ces violences sexuelles.
Alors, qu'en est-il aujourd'hui et justement après tout ce travail et toute cette médiation du travail de la Civise 1, qu'en est-il aujourd'hui de la libération de la parole des jeunes victimes ? Est-ce que vous avez pu noter des évolutions ou est-ce que des inerties demeurent nécessairement? Et comment percevez-vous les choses, Sandrine Bonneton, là-dessus?
Alors, déjà, ce qui est important, c'est que sur les transformations de nos travaux, justement, par rapport à la parole des victimes et des enfants victimes, on a recentré nos travaux en travaillant directement avec les enfants, à partir de différents groupes. Alors, un groupe de mineurs victimes, avec l'idée de travailler, d'analyser via une chercheuse en santé publique sur les aléas et les freins au parcours afin de les améliorer. Mmh. Des ateliers participatifs aussi avec Franck Burdège, notamment sur la question des qu'est-ce que les enfants attendent de l'EVAR, comment ils vivent les violences et comment on peut faire des propositions en faisant remonter la parole des enfants. Et là, c'est hyper important parce que les enfants peuvent témoigner de cyberpédocriminalité, de phénomènes de cyberpédocriminalité qu'on a tendance, nous, adultes, à sous-estimer.
Et à méconnaître,
à
non?
À méconnaître. Et à sous-estimer, puisque l'OFMIN, qui travaille particulièrement sur ces questions, nous dit que maintenant, un enfant sur les réseaux va être contacté très rapidement, parfois en moins d'une minute, par un pédocriminel.
Oui, cette statistique est très étonnante. C'est-à-dire que, imaginons qu'un jeune enfant, genre 10 ans, 11 ans, aille sur un réseau social, en moins d'une minute, il peut être en contact avec un réseau de pédocriminalité.
Exactement. Donc c'est important de poursuivre la compréhension du phénomène pour protéger les enfants et évidemment d'étendre les moyens de lutte contre les phénomènes, notamment via e-enfance qui travaille sur ces questions et l'OFMIN. Après, par rapport à la libération de la parole des enfants, il faut lever tous les freins et notamment raccourcir le temps entre la commission des faits sur un enfant et la révélation des faits par l'enfant. Donc il faut que les enfants aient les grilles de lecture et se sentent autorisés de par des connaissances, mais de par aussi le rapport à l'adulte, que ce soit des parents, que ce soit des professeurs ou tout adulte, pour pouvoir s'autoriser évidemment à pouvoir parler. Mais aussi à tout citoyen de pouvoir alerter la cellule de recueil des informations préoccupantes par une information préoccupante, voire le procureur s'il y a un danger immédiat. Nous, au niveau des professionnels, c'est important de soumettre une grille de lecture sur les signes d'alerte qui sont souvent peu spécifiques, mais aussi de compréhension de facteurs de risque familiaux et institutionnels pour que les professionnels puissent y penser sans attendre que l'enfant parle. Y penser avant ce qui va autoriser, aussi favoriser la parole dès lors que l'adulte en face a cette grille de lecture. Les inerties, elles vont toucher évidemment le tabou de parler de la sexualité et la question si la sexualité transgressive est intrafamiliale et la question de la sexualité, vous savez, les fantasmes entourant par exemple le programme EVARS et sa mise en place à l'école a suscité beaucoup de levées dans certains milieux notamment. Donc, il faut continuer à promouvoir les VARS à l'école, mais dans d'autres communautés fréquentées par les enfants. Il faut travailler sur les systèmes familiaux institutionnels qui sont verrouillés pour les déverrouiller et ainsi libérer la parole. Après, il y a une problématique, voilà, l'inceste, les violences sexuelles touchent une large partie de la population. Et donc, il ne faut pas méconnaître que beaucoup de professionnels de l'enfance sont aussi victimes. Et il y a aussi des auteurs. Donc, il faut qu'on travaille ces questions, le soutien des victimes, de repérage et de judiciarisation des situations et d'éloigner les auteurs des enfants. Et il faut du coup former les professionnels par rapport à ces problématiques, ce qui implique des connaissances tant sur les violences sexuelles que des lectures familiales et institutionnelles pour mieux les traiter.
Oui, je comprends. Alors, s'agissant des mineurs victimes et des auteurs de violences sexuelles, dans une perspective systémique, c'est-à-dire pas simplement individuelle, mais aussi institutionnelle, en particulier des victimes et des auteurs d'inceste, on se dit, en tout cas pour les victimes, qu'ils doivent être davantage protégés. Peut-être c'est vrai aussi d'une certaine façon, mais vous me le direz, des auteurs. Mais de qui ou de quoi doivent-ils être protégés ? D'acteurs et de responsables individuels au sein d'une famille, d'un groupe, mais parfois aussi, on le voit avec Bétarame, d'institutions, comme si le déclenchement de la violence tenait à une organisation ou à une désorganisation des structures sociales. Alors, comment faire pour penser ensemble ces deux niveaux individuels et sociaux ou institutionnels ?
Alors j'allais dire c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. On a été très longtemps centré sur des situations individuelles et on voit bien qu'il s'agit d'un phénomène d'ampleur et donc d'un phénomène global. Et il faut qu'on arrive à comprendre les différents niveaux et à apporter des réponses les plus efficaces possibles. Alors le problème c'est qu'effectivement de quoi protéger les enfants. Alors des institutions même supposées les protéger. Les familles, l'école, les instituts médico-sociaux pour les enfants en situation de handicap, où vont se perpétuer les faits de violence sexuelle. Puisqu'on sait maintenant qu'on est loin de l'image de l'inconnu qui va agresser l'enfant et que les agresseurs sont dans l'entourage proche des enfants. Donc le premier mouvement, j'allais dire, c'est visibiliser cette problématique, rendre visible cette problématique, puisqu'elle est difficilement métabolisable, digérable par les personnes qui ne sont pas habituées, j'allais dire, à cette problématique. Les difficultés sont d'autant plus importantes que le responsable va être, l'agresseur va être le responsable légal de l'enfant et qu'il a sa garde. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu de protection immédiate dans une logique protectionnelle renforcée. Donc voilà, on essaye de penser ensemble. Et c'est vrai que la question de Bétarame montre bien comment une institution avec des personnes protégées par un fonctionnement institutionnel et avec des systèmes de repérage qui ne sont pas activés. Alors, par des problèmes. Moi, je n'aime pas trop la question du déni, parce que c'est vrai qu'il y a des mécanismes de déni, mais je trouve que c'est psychopathologiser un peu trop ce qui parfois répond de logique sociale et de stratégie individuelle dans le champ social. Donc moi, je préfère parler de processus de silenciation, dont le déni. Il y a des mécanismes de déni, mais parfois, d'ailleurs, les victimes le disent, les victimes le témoignent, il me semble que Camille Kouchner le dit comme ça, tout le monde savait. Donc à partir du moment où tout le monde savait, on peut pas parler de déni. Mais comment les choses s'organisent socialement pour que bien que tout le monde sache, ben, finalement il ne se passe rien. Donc ça c'est un niveau d'action déjà, j'allais dire politique, social. Et puis effectivement dans les familles, il y a des mécanismes de déni, il y a des logiques perverses dans les familles, dans les institutions. Et donc là c'est d'autres mécanismes à mettre en œuvre. C'est penser l'équilibre de ces réponses qui constituent notre travail.
Je sais, Sandrine Bonneton, que vous travaillez à la fois avec les victimes, mais aussi avec les auteurs de violences sexuelles. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette question difficile ?
Alors, effectivement, moi, je suis responsable d'un pôle adolescent dans un CRIAZ. Donc, dans notre consultation, on reçoit des adolescents auteurs de violences sexuelles ou des enfants présentant des comportements sexuels problématiques. Et aujourd'hui, les travaux de Marie Romero ont montré que finalement, dans une situation sur deux portée à connaissance de la justice, l'auteur de violences sexuelles sur un mineur est lui-même mineur. Donc, qui pose des questions assez différentes, puisque les besoins des mineurs auteurs de violences sexuelles ne vont pas être les mêmes. C'est pas la même population que les adultes. Et parce qu'ils sont mineurs, il va falloir et en même temps enclencher une réponse pénale et en même temps penser une réponse dans une logique protectionnelle, puisqu'on sait que les enfants avec des comportements sexuels problématiques et les adolescents en violence sexuelle ont des trajectoires de victimation très importantes, de survictimation sexuelle, mais de survictimation globale. Mmh. Si on considère toute négligence grave, violence physique, violence psychologique, carence éducative. Mmh. Donc ça va être ces réponses et nous on va accompagner les éducateurs, les professionnels du soin à mettre en œuvre des réponses thérapeutiques, éducatives, cohérentes en elles-mêmes et j'allais dire dans l'articulation de ces réponses.
Merci Sandrine Bonneton d'avoir répondu à nos questions et avoir abordé les modalités de votre travail si difficile. Merci à vous. Je renvoie au site de l'Union Rationalif sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, voir nos publications, Raison Présente et les cahiers rationalistes, ainsi que nos éditoriaux. Je remercie à la technique Dali Yaha, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Claire Poinsignon et je vous dis au mois prochain.